Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre, Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 4.
La chose était tellement incongrue que je mis, je pense, plusieurs secondes à me ressaisir. Pratiquement dans l'obscurité, car les deux robots-lumière étaient au-dessus de moi, je distinguais une espèce de masse qui n'avait pas les coins carrés. Et de toute façon, qu'est-ce qu'un conteneur aurait fait tout seul dans une clairière? Prémonition, frisson de l'incertain, peut-être enfin du fait qu'il allait se passer quelque chose, j'ai peut-être eu peur à ce moment-là. Le premier réflexe, stupide, a été de m'approcher. J'étais sidéré. C'est seulement au bout de quelques pas que je me suis rendu compte de l'idiotie de ce que j'étais en train de faire. Il me suffisait d'envoyer le deuxième robot lumière au-dessus de la chose pour avoir une idée plus précise de ce que c'était sans avoir besoin de m'approcher. Ce que je fis, et c'est ainsi que le contour de la chose apparut dans la lumière crue du robot. Comme je vous l'ai indiqué, avec l'expérience, on finit par repérer, même après de nombreuses années, l'endroit où les plaques de 50 par 50, les plaques de verre, se rejoignent. Qu'elles soient vraiment bord à bord, ou qu'il y ait eu besoin de les ressouder par la suite. Je vous dis ça car ça a son importance. Au fur et à mesure que le deuxième robot lumière glissait lentement au niveau du toit vers la chose, je pouvais, par les reflets, voir les lignes qui m'en séparaient. La chose était non pas au milieu, mais à l'intérieur d'une dalle, pas à un croisement, pas à une jonction, ce qui rendait la chose complètement folle et complètement improbable. Mon premier réflexe fut de vouloir zoomer, comme si j'étais dans une ville virtuelle. Quelle folie! Alors, autre folie s'il en est, mais, après tout, quel danger pouvait-il y avoir? Je me suis approché, lentement. La chose avait à peu près la hauteur d'un conteneur, entre 2,20 m et 2,50 m, de forme à peu près oblongue, d'un diamètre d'environ 1,50 m. De loin, ça, j'avais pu l'estimer. En m'approchant, je comprenais pourquoi j'avais du mal à identifier non pas son contour, mais sa couleur ou sa texture. Ce que j'avais sous les yeux était impossible. C'était un peu comme si une poche de chaleur avait explosé sous la dalle, sous les 10 cm de vitrification, comme une espèce de bulle, comme si un souffleur de verre avait chauffé la dalle et avait soufflé à cet endroit-là. Soufflé presque trop, car la bulle avait explosé, mais elle n'était pas vide. En dessous, il y avait la terre, et ce que j'avais devant moi, c'était donc une sorte de collerette qui montait à 40 ou 50 cm, où l'on voyait effectivement l'épaisseur du verre, et tout le reste, une sorte de magma informe, mélange de roches, peut-être de terre et de silice, une sorte de basalte bariolé, craquelé. C'est bizarre les images que l'on peut avoir, les références culturelles qui restent avec le temps. Encore aujourd'hui, demandez à un enfant de dessiner une maison, il vous fera un carré avec un triangle pour le toit, alors qu'il y a belle lurette que les maisons aujourd'hui sont des bars avec plein de petites fenêtres. Et même les enfants qui, paraît-il, à l'époque, habitaient dans des tours, alors qu'il existait encore des maisons, quand on leur demandait de dessiner une maison, c'était toujours un rectangle avec un toit pointu. Bien moi c'est pareil. Quand j'ai regardé cette forme, de loin, avec évidemment une histoire d'échelle, j'ai pensé à une carotte. Le haut d'une carotte qui dépasse de la terre. Il n'y avait pas de fan. Peut-être que je pressentais qu'il devait y avoir quelque chose d'enfoui sous la terre. Et ce que j'avais sous les yeux, c'était juste le haut de la carotte qui dépasse. Rond, un petit peu écrasé sur le sommet. Ça a été compliqué d'expliquer à quoi ça ressemblait en ayant utilisé cette image quand j'ai fait mon compte-rendu. C'était déjà difficile d'expliquer tout court que quelque chose avait crevé les 10 cm de vitrification. Mais alors, pour un homme de l'espace, expliquer que ça ressemble à un bout de carotte qui dépasse de terre dont on aurait coupé les fans. Depuis quand est-ce que c'était là? Je m'étais approché suffisamment près pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de dégageant de chaleur, alors que, forcément, l'image que j'en avais, c'était celle du souffleur de verre. Il y avait bien eu une sorte de corolle, il y avait donc forcément eu de la chaleur, il avait fallu faire fondre la couche de 10 cm de verre pour faire émerger cela. Mais c'était froid, et donc c'était arrivé déjà il y a un petit bout de temps. 4, 5, 6 semaines en arrière, des événements, des secousses, un tremblement de terre, une météorite qui aurait crevé le plafond sans qu'on le voie, mais non, le plafond était là. C'est effectivement quelque chose qui venait de l'intérieur. quelque chose qui venait du dessous et qui avait émergé. Et rien dans les semaines qui précédaient n'indiquait que la zone avait pu subir quoi que ce soit. Pourtant, les forces qu'il avait fallu auraient dû au moins faire vibrer la structure. Mais non, rien, aucune trace. La zone était vide. Alors bien sûr, les robots n'étaient pas passés par là. Ils n'avaient pas été confrontés à cet obstacle sur leur route. C'est vraiment un hasard si, ce matin-là, j'avais décidé d'aller me promener précisément dans cette clairière. Sinon, ça aurait pu rester, longtemps, sans bouger, et sans que quiconque ne puisse donner l'alarme. Donner l'alarme, c'est évidemment ce que j'ai fait, tellement ça paraissait évident. De toute façon, c'était mon travail. Non pas que ça gênait quoi que ce soit dans le transport des conteneurs, mais enfin, c'était suffisamment exceptionnel pour que je remonte l'information. D'abord, à mon responsable de secteur, au niveau D. Visiblement, il était embarrassé, et s'est remonté au responsable global de la sécurité. Lui, Denis, semblait aussi embêté que moi, quoique un peu schizophrène. D'un côté, ça ne gênait pas le commerce, ça ne gênait pas le transport des conteneurs. J'avais fait un rapport, quelque chose me disait qu'il l'avait gardé pour lui, et que l'intermédiaire, le responsable de la sécurité au niveau D, avait bien vite supprimé le fichier et oublié tout ça. Comme si nous n'étions plus que deux à savoir, deux à partager ce secret, qui, globalement, aurait pu ne pas avoir plus d'importance que ça, si on avait pu avoir une explication de la chose. Puisque ça ne gênait pas le commerce, peu importe, il suffisait de laisser cette zone un peu plus longtemps en quarantaine. De toute façon, on ne remplissait jamais totalement l'entrepôt. On condamnait définitivement cette partie, et on passait à autre chose. Mais, comme moi, était embêté parce que ça pouvait représenter une telle force. Pensez donc. 10 cm de verre, fondu, sans qu'on n'entende rien, sans vibration. Et puis tout de même, cette chose. J'avais fini par lui expliquer l'histoire de la carotte. Peut-être que ça avait fait son chemin. Globalement, c'est presque inconsciemment qu'il en était arrivé à avoir peur de ce qu'il y avait en dessous. Mon descriptif ne sous-entendait absolument pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Mais voilà, la première image que j'avais eue, moi aussi, elle me faisait faire des cauchemars. Les ressorts administratifs de la compagnie étaient particulièrement tordus. À partir du moment où l'on voulait remplacer un robot transporteur qui commençait à être un petit peu vieux, il y avait juste à appuyer sur un bouton et dans les 24 heures il était remplacé. Là, par contre, pour obtenir un système de surveillance, ce fut plus compliqué. Plus tard, j'ai découvert ou deviné que ça avait été surtout compliqué de l'obtenir sans avoir à se justifier et sans que personne le sache. Le responsable global de la sécurité ne tenait pas à ce que le secret soit éventé. Sur le moment, je n'y avais évidemment pas pensé. Enfin voilà, un système de surveillance. Une caméra, une intelligence artificielle, un système d'alerte. Ça ne m'empêchait pas d'y aller tous les jours. Tous les jours, de vérifier moi-même les capteurs. Tous les jours, le même rapport. Il ne se passait rien. Ça ne bougeait pas. Ça ne changeait pas de température. Ça ne vibrait pas. Ça n'émettait aucun son, aucun rayonnement. C'était totalement inerte, comme une espèce de rocher qui serait tombé là. Comme une grosse météorite qui aurait traversé le plafond, sans qu'on s'en rende compte, qui aurait traversé le plafond sans le trouer, qui aurait fondu la dalle et qui serait resté là. Mais bien sûr, c'était impossible. D'abord, le plafond aurait été défoncé, et ensuite, sous l'impact, il n'y aurait pas juste eu cette corolle de verre qui constituait presque la base de la carotte. Non, il y aurait eu un cratère, un impact. Le verre aurait été brisé. Non, décidément, ça ne collait pas. On ne savait pas ce que ça pouvait être. La peur des éco-terroristes était quelque chose de constant. On racontait qu'il y avait des communautés cachées quelque part dans les montagnes qui dataient de l'époque où on avait laissé les colons s'installer avant de les chasser pour ne mettre que les entrepôts. Ils auraient bien voulu venir nous combattre. Ma foi, ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre les entrepôts. Mais du coup, l'accès à Los Angeles était extrêmement réglementé. Il y avait très peu d'êtres humains sur cette planète. Tous les responsables étaient en orbite. En fait, c'était tout simple. Il n'y avait que 3 êtres humains par entrepôt. Tous les autres n'étaient pas censés être là. Et les mouvements n'étaient que, justement, ceux qui arrivaient ou ceux qui partaient. Je ne sais pas si cette histoire de communauté est vraie. Après tout, s'ils nous en voulaient, ça n'aurait pas été bien compliqué. Un petit commando, nous n'étions que 3. Évidemment, il n'aurait pas eu les moyens de combattre les robots, mais toute cette belle mécanique, toutes ces intelligences artificielles, après tout, la compagnie payait très cher pour qu'il y ait 3 humains. Il aurait suffi de les tuer pour que la mécanique se grippe. Mais non, Il n'y avait jamais eu d'attaque. Je me souvenais de ces histoires que mes deux collègues m'avaient racontées au début, avant de me tourner le dos. Ça m'avait étonné, mais effectivement, le responsable de la sécurité au niveau D ne m'avait jamais parlé de cet ennemi-là. Ah oui, ça, les météorites. Bon, j'en avais soupé. Les grignoteurs, que de paperasserie, sans jamais en voir un. Et puis, ce qu'on appelait les containers vivants. Mais les attaques, les communautés, rien. C'était déconseillé de sortir. Pourquoi? Vraisemblablement à cause de l'atmosphère. On essayait quand même non pas d'avoir une atmosphère spécifique à l'intérieur, mais au moins elle était filtrée. Peut-être qu'à l'extérieur, c'était encore plus compliqué. Et que les conners auraient pris de l'encrassage plus rapidement, ce qui aurait été cher à la compagnie. Parce que, puisque la seule forme de vie de grande taille qui aurait pu être dangereuse, c'était les anges, et qu'ils ne risquaient pas d'y en avoir autour des entrepôts, bon, peut-être des insectes ou des serpents, je ne sais. Quel danger pouvait-il y avoir? En tout cas, sortir était déconseillé. Je ne l'avais d'ailleurs pratiquement jamais fait. Alors, encore plus qu'un système de sécurité passé on ne sait comment, d'un entrepôt dans un transporteur, puis ramené jusqu'au T-177, faire venir un étranger, sans que ça alarme qui que ce soit, et sans qu'on pose des questions, ça avait dû être particulièrement compliqué. Ça me montrait aussi que le responsable global de la sécurité devait avoir le bras long, qu'en fait il devait pouvoir en faire des choses sans en référer à sa hiérarchie, sans même que quiconque ne puisse le savoir. J'en suis venu à me demander si ce n'est pas lui qui avait fait la fameuse étude de rayonnement et qui m'avait octroyé le D-177. Mais après tout, on échangeait régulièrement, pourquoi ne me l'aurait-il pas dit? Bref, tout ça c'est du passé. En attendant, le bras long il devait l'avoir, car il faisait venir un étranger, un responsable de la sécurité, quelqu'un qui avait de l'expérience. Ça a mis 3 mois pour qu'il arrive. Je sais pas où est-ce qu'il a été le chercher, mais là aussi, le transport a été particulièrement rapide. 3 mois, il a fallu un sacré vaisseau spatial pour amener celui qui, du coup, devait être une sacrée pointure. J'étais dans mes petits souliers quand il arriva. D'autant plus que, tout comme la caméra, il fallait faire ça discrètement et que les deux autres humains du D-177 ne devaient pas être au courant. Ça allait être facile. Enfin bon, voilà mon bonhomme, un petit vieux à lunettes, étonnant. Je m'attendais plutôt à un jeune bardé d'électronique. Lui, il vient les mains dans les poches. Simplement pour voir, me dit-il. On verra par la suite. La suite, ça a été rapide. Il a été voir, tout seul, pendant que j'occupais les deux autres. Et puis il est revenu, m'a dit qu'il ne pouvait rien pour nous, et est reparti. Imagine le coup, juste un aller-retour, pour 30 secondes, et décliner l'invitation. Waouh. Décidément, louche.